Welcome to the Arcade Channel.
Alors, je vais parler de ces malheurs-là. Je vais parler des malheurs de l'âge de fer. Et je voudrais montrer que l'âge de fer, bien, nous le vivons, nous aussi, encore. Et pour le montrer de façon imagée, je n'ai pas aujourd'hui imprimé de texte, j'ai seulement donné quelques images. Il se trouve, par une sorte de hasard, que à Paris, dans le mois prochain, dans le mois qui suit, au Grand Palais aura lieu une grande exposition qui s'appellera « Crimes et châtiments ». Et les images que je vous ai données sont des tableaux extraits de cette exposition qui n'a encore pas commencé. Mais il se trouve que j'en suis en partie chargé, tout simplement parce que, autrefois, c'est cette exposition qui parle de la justice et des cruautés de la justice passée est organisée autour de la célébration d'une anniversaire, l'anniversaire de l'abolition en France de la peine de mort, vous savez, qui date de 82. Et il se trouve qu'à cette époque-là, j'avais été un peu actif dans cette affaire-là, d'abolition de la peine de mort, et on m'a demandé de rédiger le catalogue de cette exposition. Je voudrais vous faire bénéficier de quelques réflexions concernant cette question des crimes et des châtiments, c'est-à-dire de la cruauté de la société, telle que la décrit précisément Hésiode dans la question de l'âge de fer. Alors, j'ai sélectionné parmi les 100 ou 150 tableaux qui seront dans cette exposition les tableaux que vous avez là sous les yeux, et je voudrais les commenter devant vous, et les commenter en essayant de décrire deux ou trois thèmes fondamentaux, et vous allez voir lesquels. Et pour commencer, au lieu de commencer de façon abstraite, je vais commencer par regarder le premier de ces tableaux-là, qui est un tableau d'Étienne Béricourt, qui est un peintre assez peu connu, mais enfin qui était connu à l'époque, puisqu'il est de l'époque de la fin du XVIIIe siècle et de la Révolution française. Et vous avez devant vous ce qu'il appelle l'enlèvement des cadavres. Et je voudrais parler de cet enlèvement des cadavres. Nous autres Français, nous faisons volontiers l'éloge de la Révolution comme une époque fondatrice de notre République, de notre liberté, de notre égalité, etc. Et, par parenthèse, de notre fraternité, la voilà. Voilà notre fraternité. Et quand vous voyez comment on enlève les cadavres dans un site donné, ils ne sont pas tous décapités, certains le sont, parce que c'est la fin de la guillotine, ou c'est l'époque où on va inventer la guillotine, on en parlera un petit peu. Il faut bien amener les cadavres sur des charrettes, et la ligne de ces charrettes interminables qui va vers l'horizon, vous savez, vers la ligne de fuite, me rappelle beaucoup les trains de la mort de l'organisation atroce d'Auschwitz, par exemple. Et lorsque un professeur d'histoire ou un professeur de littérature commente les textes concernant la Révolution, les textes sont pour écouter, audible, mais non pas visible. Mais ce qui frappe dans les dessins de la Révolution, c'est cette horreur-là. Je voudrais raconter, par exemple, j'ai beaucoup d'admiration pour un peintre de la cour de Louis XVI qui s'appelait Hubert Robert, certains d'entre vous le connaissent peut-être, qui, pour des raisons, un peu rapide, a été condamné à mort par la Convention et par par la Terreur. Et il est donc enfermé, et puis il est amené avec la charrette vers la guillotine. Or, par miracle, il se trouve que, comme il s'appelait de son nom propre un prénom, Robert, le bourreau crie « Robert ». Dans la charrette, il y avait évidemment 9 ou 10 condamnés à mort qui allaient passer à la décollation. Et le bourreau crie « Robert !» Et, stupéfait, il voit son voisin se lever et aller se faire guillotiner, de sorte que la charrette l'a ramené à la prison. Il a été omis. Et comme un vrai peintre, d'ailleurs comme un vrai musicien ou un vrai écrivain, n'a pas peur de la mort comparativement à la fin de son œuvre. Il se trouve qu'Hubert Robert, dans la charrette même, avait dessiné les profils de ses voisins. Il avait le courage, à l'article de la mort, de continuer à peindre. Et on a de lui un carnet complet de ces condamnés qui partent se faire décoller. Et c'est un homme extraordinaire parce que, comme il était l'organisateur des fêtes du roi et qu'il avait dessiné un certain nombre d'architectures et de jardins à l'époque de l'Ancien Régime, on a de lui par la suite des tableaux bouleversants représentant le Louvre, par exemple, ou la Grande Galerie du Louvre, écroulée, complètement écroulée, et contenant une sorte de mangeoire avec des ânes, des bœufs, etc. Et il ne pouvait redessiner que des ruines. Vous voyez, comme si sa vie était elle-même encore en ruine. Vous voyez. Il y a dans la vie d'Hubert Robert une sorte comme ça de moment tragique où il était passé par... et là, ce n'est plus, moi je ne fais qu'un récit, mais si vous voyez ça, si on voit ça, j'ai l'impression qu'il faut avoir l'estomac très accroché, très bien accroché, pour chanter l'éloge de la Révolution et regarder juste après, par exemple... vous avez deux tableaux qui représentent ce qui reste après la guillotine. Bien entendu, dans cette exposition, nous en avons 10 ou 12 de ces tableaux-là qui font voir les têtes décollées. Il y en a une qui représente la tête de Louis XVI, l'autre qui représente diverses têtes. Et vous voyez, par exemple, dans le texte anonyme, ce que c'était que la justice sous la terreur. Nous employons aujourd'hui le mot terroriste et je ne sais pas si vous en connaissez l'origine. L'origine actuelle du mot terroriste, les attentats terroristes, c'est un mot franco-anglais qui a été utilisé là, à ce moment-là, par les Anglais, terroristes, pour dire ce qu'il ne faudrait pas qu'il arrive à l'Angleterre. C'est-à-dire l'Angleterre était terrifiée par les événements de Paris et redoutait beaucoup que ceux qui étaient en faveur de Robespierre en Angleterre fassent la même chose sur le sol anglais et fassent à Londres ce qui se passait à Paris et les horreurs anglaises sur les forçats d'Australie viennent exclusivement de là. C'est-à-dire on faisait partir de Londres et de Liverpool par bateau entier tout homme et toute femme qui étaient plus ou moins soupçonnables, même s'ils avaient volé que 2 shillings, vous voyez, soupçonnables d'être des supporters de la terreur. C'est-à-dire ils étaient tous appelés à l'époque terroristes. Et vous voyez donc que quand on a la peinture sous les yeux, on se dit que devant le tas de têtes sculptées ou peintes telles que je vous l'ai fait voir, j'ai envie de commencer mon cours en vous proposant une balance, en vous proposant une balance de justice, mais une justice à ma façon, une balance qui permettrait de peser non pas les âmes, non pas les mérites de chacun ou le caractère de culpabilité, mais de peser tout simplement les philosophies ou les idéologies. Il y aurait d'un côté de la balance les idéologies qui produisent des cadavres et de l'autre côté des idéologies qui seraient sauves de tout cadavre. Je ne pourrais pas dire autrement que je m'en suis tenu toujours à cette pesée-là et je n'ai jamais de ma vie suivi aucune philosophie qui avait tué un seul homme. Si une philosophie tue un seul homme, ne la suivez jamais. Si une philosophie est sauve de tout, de toute condamnation à mort, alors c'est la bonne. Ce n'est pas la vérité ou le critère de vérité qui, là, distingue les philosophies, c'est le critère de mort. C'est le critère de mort. Des idéologies qui produisent Béricourt, je ne peux pas l'admettre. Alors, nous rentrons dans cette exposition. Je vous guide, c'est moi le guide du Grand Palais. Je vous fais rentrer dans cette exposition Les tableaux tels que les trois premiers que vous venez de voir sont désormais légion sous vos yeux, n'est-ce pas ? Légion sous vos yeux. Cette exposition aura beaucoup de succès. Il va y avoir beaucoup de gens qui feront la queue pour aller voir ça. Voir quoi ? Voir quoi ? Alors, s'il vous plaît, nous allons, pour commencer, oublier cette exposition un moment. Et au lieu de regarder des images, regardez un livre. Alors je prends un manuel d'histoire, n'importe quel manuel d'histoire, je l'ouvre au hasard, et je lis, voyons, on peut inventer quelque chose, je tombe sur la période, disons, napoléonienne, après la Révolution, et puis je vois sur ce livre d'histoire que les Russes appellent Borodino, cette bataille que nous appelons, nous, bataille de la Moscova. Cette bataille qui eut lieu sur la rivière qui est à côté de Moscou et qui a eu lieu le 7 septembre 1812. Et cette bataille a opposé aux 123 000 soldats de la Grande Armée 135 000 Russes sous les ordres d'un général qui, par la suite, sera assez célèbre pour être le grand-père de la comtesse de Ségur. Le combat a duré 15 heures. Le combat a duré 15 heures, dit ce livre d'histoire. Et il laissa sur le plateau, sur la rive gauche de la Moscova, 90 000 cadavres. 60 000 du côté russe et 30 000 du côté français. Et le manuel d'histoire suit en disant cette victoire ouvrit à Napoléon les portes de Moscou. Là aussi, il faut un estomac capable d'absorber ça, c'est-à-dire d'absorber 6 000 cadavres à l'heure, vous voyez, 90 000 sur 15 heures, et pouvoir supporter la vision de ce taille monde. Vous vous rendez compte ce que c'est qu'un petit plateau avec 90 000 morts. À la bataille de Solferino, le célèbre et regretté René Dunant a vu ça. Il a vu 42 000 morts sur le plateau, et de cette vue est née, vous savez quoi ?
La Croix-Rouge.
Simplement parce qu'il avait vu ça, il a inventé la Croix-Rouge. Et voilà ce que nous fait voir l'histoire. Et la bataille de la Moscova, 90 000 morts, très bien. Et cette victoire ouvrit les portes de Moscou. Et d'ailleurs, la grande armée fut chassée de Moscou relativement vite. Et le général Hiver en profita pour tuer les restes de la grande armée. Vous vous rappelez de ça, voilà. Eh bien, 100 000 morts, vous vous rappelez du mot de Napoléon après la bataille d'Iéna, une nuit de Paris remplacera cela. Une nuit de Paris remplacera cela. C'est l'histoire. Vous aimez l'histoire, peut-être ? Ben, pas moi. L'histoire qui me raconte des choses pareilles. Et alors, vous prenez ce manuel-là, et vous avez envie de continuer ? Ben, continuons, si vous voulez, un petit peu. Et quelques années plus tard, la Seconde Guerre mondiale... Ah, vous savez ce que c'est, la Seconde Guerre mondiale ? C'est une date incroyable dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que vous savez que la Seconde Guerre mondiale est la première guerre de toute l'histoire humaine où Homo sapiens était assez puissant pour tuer plus de ses semblables que les microbes et les virus avaient fait dans tous les conflits antérieurs ? Dans les conflits antérieurs, les historiens maintenant et les médecins ou les historiens de la médecine sont d'accord pour dire que les microbes et les virus mis en présence par les armées qui se rencontraient faisaient 10 fois plus de morts que la bataille elle-même. La bataille de Bouvines a fait quelques centaines de morts, mais quand les armées se sont retirées, elles sont passées par la campagne, elles ont distribué tous les virus et les microbes en faisant des dizaines et des centaines de milliers de morts, à côté de quoi la bataille de Bouvines n'était rien. Mais, eh bien, la Seconde Guerre mondiale est la première guerre... Et ça m'a paru une date immense dans le processus d'hominisation. C'est plus de l'histoire, c'est quelque chose de transhistorique, n'est-ce pas ? Où nous avons les moyens techniques de tuer plus de personnes que les virus et les microbes autrefois. Comme si comme si notre science avait battu Darwin, comme si notre avait été supérieure au processus. Alors bon, ça c'est l'histoire, c'était la représentation pour commencer, monsieur Béricourt. Maintenant c'est le manuel d'histoire. Si d'ailleurs je le feuillette en remontant après avant Borodino, je vais retomber sur la guillotine avec les tas de têtes que vous venez de voir. Très bien. Et que vous verrez à l'exposition si vous y allez, si vous avez l'estomac suffisamment accroché pour supporter cette chose-là. L'avez-vous vraiment, cet estomac-là? Je voudrais vous démontrer que oui. Parce que voilà l'exposition telle que vous la verrez ou que vous l'avez. Je vous propose d'aller la voir. Voilà le manuel d'histoire tel que nous l'avons feuilleté. Mais votre vie quotidienne, au fond, que faites-vous pendant les repas? Ben, vous regardez la télévision. Et vous voulez que je vous mime le journal télévisé de midi et le soir? Oh, c'est très simple. Toute chaîne confondue, ou de radio, toute poste confondue, ou même journaux écrits, toutes opinions confondues, eh bien voilà, attentat ici ou là, 50 morts, tant de blessés, catastrophe ici, tant de morts, tant de blessés. Savez-vous, chers amis, que lorsqu'on fait une analyse de contenu, vous savez ce que c'est stylistiquement une analyse de contenu, c'est-à-dire le nombre de mots le plus répété, eh bien que ce soit la télévision, la radio ou les journaux, le mot le plus répété, c'est mort et cadavre. Le mot le plus répété, c'est mort et cadavre dans les nouvelles, comme si c'était des nouvelles. Mais ce ne sont pas des nouvelles, puisque ça date de Caïn et Abel, que je sache. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les nouvelles ? Rien. La répétition continue de la vision cadavérique. C'est-à-dire, au fond, j'ai parlé de l'histoire, j'ai parlé de la représentation, j'ai parlé de l'exposition, mais si on regarde notre vie quotidienne, on s'aperçoit que nous mangeons du cadavre à chaque repas. Que nous mangeons de la chair humaine à chaque repas. C'est la manducation principale de l'Occident. Et par conséquent, quand j'ai fait la préface de ce catalogue de l'exposition, j'ai commencé en disant « Entrez donc dans l'exposition, mais entrez, faites comme chez vous. Faites comme chez vous, vous allez manger autant de cadavres que vous en mangez à tous les repas. Par conséquent, ne croyez pas que vous serez dépaysé, c'est exactement comme ça tous les jours chez vous. Et d'ailleurs, vous pouvez même amener vos enfants, parce que la statistique dit aujourd'hui qu'un adolescent de 13 à 14 ans a vu chez lui entre 10 et 14 000 meurtres, n'est-ce pas ? D'ailleurs, si vous continuez à regarder la télévision après les nouvelles qui vous ont fait manger comme ça quelques centaines ou quelques milliers de cadavres, vous verrez le roman policier du soir avec un meurtre, un coupable, un innocent, etc. Avec la recherche du coupable. Et on dit que l'occidental contemporain tourne le dos à la mort et à la culpabilité. Dans l'analyse de contenu, le mot coupable est bien le troisième. Premier mort, deuxième cadavre, troisième coupable. Voilà exactement quelle est la. Alors, est-ce que nous comprenons, est-ce que nous savons ça, que nous faisons ça? Je crois pas. Je crois que nous ne savons pas. Je me souviens avoir dit un jour à un directeur de chaîne qu'il faisait manger de la chair humaine à des millions de gens tous les jours. Il s'est mis dans une colère folle. Il ne le savait pas. Il ne savait pas que dans sa propre chaîne... Ah si, quand même, il interdisait à ses enfants de la voir. C'était déjà beaucoup. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'adultes qui interdisent à leurs enfants de ne pas regarder le métier qu'il fait? Il n'y en a pas beaucoup, mais eux le font, parfois. Vous voyez ? Par conséquent, si nous réfléchissons à toute cette introduction que je suis en train de vous faire, c'est-à-dire à l'exposition que je suis en train de préparer, très bien, au manuel d'histoire tel que je viens de le citer, très bien, à votre quotidien à chaque repas, il faut bien définir là une attirance extraordinaire. Il faut bien définir quelque chose comme une délectation morose fondamentale de l'homme à regarder ça. Combien de fois vous avez remarqué que sur une autoroute, s'il y a un accident de l'autre côté, il y a un bouchon de l'autre côté, etc. Parce que les gens veulent voir le cadavre. Vous voyez, il y a là une attirance extraordinaire qui est probablement fondamentale chez nous, fondamentale chez l'homme. J'appelle ça, s'il vous plaît, la thanatomanie, c'est-à-dire la manie fondamentale, la thanatomanie humaine, c'est-à-dire l'attirance de l'homme pour le spectacle de la mort. Je crois que si on ouvrait les deux portes et si vous voyiez d'un côté un spectacle érotique et de l'autre côté un spectacle mortuaire, c'est sur le second que vous irez. C'est sur le second, enfin que vous, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire vous, mais tout ce que je sais, c'est que la plupart des gens iront, statistiquement parlant. Et quand je dis statistique, je dis simplement que je manipule là des grands nombres pour ce qui concerne notre société du spectacle. Et qu'est-ce que notre société du spectacle ? C'est une société de la mort. C'est le spectacle de la mort qui est là majeur et qui est là le plus attirant. C'est la mort qui fait recette. C'est la mort qui fait monter l'audimat. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'audimat. L'audimat, en français, ça veut dire le calcul du nombre des spectateurs pour une émission déterminée. Donc je suis obligé de parler là une langue que j'aimerais bien appeler anthropologique. C'est-à-dire je ne fais pas d'histoire en parlant de ça, je ne fais pas de psychologie en parlant de ça, mais j'ai l'impression que je fais plutôt de l'anthropologie générale. C'est comme ça que les hommes... Ça veut rien dire, les hommes. Mais là, pourtant, il y a quelque chose qui est à l'horizon de ce que je vois. Alors, quand je dis les hommes, regardez, le quatrième tableau. Le quatrième tableau, c'est un tableau de Goya qui s'appelle « Miren que graves ». Alors je crois que Goya, là, et d'ailleurs dans l'exposition, il y a une vingtaine de tableaux de Goya qui sont tous plus ou moins de la même veine et qui représentent les hommes métamorphosés en bêtes. Et on a l'impression que Goya, là, a l'idée que si nous nous conduisons comme je viens de le définir, alors nous sommes des animaux, nous sommes des bêtes. Et nous nous conduisons de façon bestiale. Alors là, on voit très bien un homme à tête de vautour ou d'aigle, d'autres à tête d'âne, et puis des arrières de corps à pattes et à tronc d'ours. Vous voyez, avec, et il a métamorphosé cette humanité en bête. Il se trompe. C'est une métaphore. Cet homme s'est conduit comme une bête, comme un animal. Vous savez ce que font les animaux, vraiment ? Vous savez ce que fait, quel est le résultat des études éthologiques sur cette question, l'éthologie étant l'étude de la conduite des animaux ? Eh bien, la plupart des animaux que je sache, enfin, tous ceux que nous connaissons, tous ceux que les éthologues ont analysés, lorsqu'ils se battent entre eux, pour des femelles, pour la dominance, pour de l'alimentation, pour etc. Ils se battent jusqu'à une certaine limite et ils ne pratiquent jamais le meurtre intraspécifique. C'est-à-dire ils ne tuent jamais une bête à l'intérieur de leur propre espèce. Le loup tue l'agneau, bien entendu. Le vautour va tuer sa proie, bien entendu. Le tigre va chasser la gazelle, bien entendu. Mais jamais un tigre ne tuera un tigre, jamais un vautour ne tuera un vautour, jamais un loup ne mettra à mort un loup. Et quand je dis loup, je dis quelque chose qui fait partie de la tradition philosophique. On dit l'homme est un loup pour l'homme, pas du tout, parce que l'homme va jusqu'à la mort. Et par conséquent, il y a dans le tableau de Goya une erreur absolument fondamentale. Si nous nous conduisions comme des bêtes, alors nous ne serions pas thanatomaniaques. C'est-à-dire, nous n'irions pas jusqu'à la mort. Si nous ne nous conduisions comme des bêtes, alors nous ne serions pas des criminels. Non seulement des criminels en acte, mais des criminels en représentation. Oui. Et donc, si moi j'avais à faire un repin sur ce tableau-là, je me dirais si le vautour ou si l'âne voulait tuer l'âne, alors je l'habillerais en homme. C'est ça la vérité. Oui. Ah si, il y a une exception. Il y a une exception. Il y a une autre espèce animale qui se conduit comme l'homme. Le rat. Le rat. Et par conséquent, lorsque le philosophe dit « l'homme est un loup pour l'homme », il se trompe deux fois. Premièrement, le loup ne se conduit pas de cette façon-là, mais seul le rat le fait, et donc l'homme est un rat pour l'homme. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ou le rat est un homme pour le rat. Hein? Et si on avait... Si Goya avait été, disons, conséquent avec les résultats de notre science à nous, il aurait plutôt mis des rats, n'est-ce pas? J'aimerais bien, moi, repeindre ça et faire voir un lion en train de tuer un lion, et alors je l'habillerais avec la casaque et la crinière d'Hercule. Vous vous rappelez qu'on disait le lion de Némée, mais il faudrait inverser l'affaire et dire tiens, un lion est en train de tuer un lion, et à ce moment-là, il se métamorphose en Hercule. N'est-ce pas ? Il a la casaque, la peau et la crinière, il a la crinière d'Hercule. Donc il y a chez Goya une erreur, oui. Une erreur, oui. Mais peut-être autre chose qu'une erreur. Mieux qu'une erreur. Un habillement. Cette métamorphose-là, c'est peau d'âne. Hein. Les hommes sont habillés avec une tête d'âne, un corps d'ours, un bec d'aigle, etc. Pour nous cacher que ce sont des hommes. La métamorphose est très bonne, là. Elle est d'ailleurs partout dans les fables de La Fontaine, dans les fables d'Ésope, dans les fables latines, grecques ou assyriennes. Ce pourquoi on habille les hommes en cigales, en fourmis, en loups, en agneaux, etc., c'est pour nous cacher que ce sont des hommes. Ce n'est pas des métaphores, c'est des caches. Voilà. On dit bien cache-sexe. Ben, on va dire cache-meurtre. Voilà. L'habillement en bête, c'est pour nous cacher que c'est pas nous. Ah non, c'est pas nous. C'est pas nous, c'est des vautours. C'est pas nous, c'est des loups. C'est pas nous, c'est des ânes, n'est-ce pas ? Oui. Donc il y a une sorte là d'hypocrisie. La métamorphose permet un habillement astucieux La plupart de ces métamorphoses-là sont des aveuglements. Donc le tableau de Goya est aveuglé deux fois. Il est aveuglé du point de vue de l'éthologie, non, les animaux ne font pas ça, et il est aveugle parce qu'il habille les conduites humaines d'un vêtement d'animal. Il est deux fois aveugle. C'est extraordinaire. Alors que précisément, il voulait dire le contraire. Il voulait dire... nous sommes tellement cruels que nous sommes des animaux. Et voulant être vraiment lucide, il est aveugle deux fois. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant et il faudra revenir là-dessus pour savoir ce que c'est que la représentation, de représenter quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas dans une représentation quelque chose comme un cache, comme ça, une sorte de... Je suis content d'avoir analysé ce tableau de Goya pour en faire voir l'aveuglement. Parce que ça me permet de revenir en arrière et de faire voir que lorsque je disais au directeur de chaîne qu'il ne faisait voir que des meurtres, il ne le savait pas. Pourquoi ? Parce qu'il faisait voir des nouvelles, c'était quand même son travail. Il est vrai qu'il y a eu un attentat en Afghanistan, il est vrai qu'il y a eu un accident de chemin de fer en Irlande, il est vrai qu'il y a eu un séisme au Chili, et donc il y a des morts. Oui, mais je lui disais, c'est vrai, en effet, mais pourquoi choisissez-vous cette vérité ? C'est-à-dire, probablement, il devait y avoir ici ou là des mères qui allaitaient son enfant en souriant. Oui, mais c'est pas une nouvelle, me dit-il. Alors, quelle est une nouvelle? Ben, la nouvelle, c'est la mort. Et c'est simple. On revenait tout le temps au même point, mais il ne le voyait pas. D'ailleurs, vous ne voyez pas de toute façon que vous mangez du cadavre à tous les repas en regardant la télé. Vous ne le voyez pas. C'est-à-dire, vous regardez des nouvelles. Hein ? Vous regardez ce qui s'est passé en Afghanistan, etc. Mais en fait, la réalité, c'est que vous ne voyez toujours que la même chose. C'est-à-dire des cadavres et des morts. Vous voyez ? C'est-à-dire, le spectacle est toujours du côté de la thanatomanie, mais vous êtes aveugle. Et c'est cet aveuglement qui est le premier sujet de mon cours. Et comment se fait-il que, alors que la thanatomanie touche presque notre essence spécifique d'espèce, l'espèce humaine, comment se fait-il que, non, comment se fait-il que nous soyons aveugles à cette affaire? Et le premier qu'il a vu de façon très très précise, c'est Géricault dans le tableau qui suit. Dans le tableau qui suit, dans le tableau qui suit, exécution capitale à Rome. Vous y êtes sans doute, exécution capitale à Rome, c'est ça, Théodore Géricault. Nous ne pouvons pas reconnaître qui est qui, puisque chacun porte la cagoule, puisque les gens ont un bandeau sur les yeux, etc. Il n'y a que des aveugles. Et ça, Géricault le voit très bien. C'est-à-dire, avez-vous remarqué aussi que le seul qui ne porte pas de cagoule, c'est le bourreau, qui est en haut à gauche. Et lui, il faut bien qu'il voit, parce qu'il faut bien qu'il vise avec la cognée, qui vise bien la tache du cou. Hein, parce que vous savez sans doute que ce soit la guillotine ou que ce soit la hache, il s'y prenait à plusieurs fois. Vous le savez.
Y compris la guillotine.
Parce que je ne sais pas si vous avez vu la guillotine. Après l'abolition de la peine de mort en 1989, on a chargé un cinéaste de faire une histoire de la peine de mort. Et pendant un certain temps, la guillotine a été entreposée au château de Vincennes. J'habite Vincennes. Je l'ignorais. C'est pas très impudique que de parler de ma vie. Ma petite fille, qui à l'époque avait, je sais pas, 9-10 ans, me suppliait tous les soirs quand je rentrais du travail que j'aille la voir un jour quand même jouer avec ses amis dans sa cabane. Elle jouait à la cabane au bois de Vincennes. Et alors, bon, au bout d'un certain temps, j'ai essayé de trouver du temps et j'ai suivi ma petite fille Lise dans sa cabane. Horreur absolue, c'était la guillotine. C'est-à-dire, avec des petits-enfants, ils jouaient dans le bâti en bas de la guillotine. Oui. Et donc, j'ai vu la guillotine. Je suis monté sur le plateau de la guillotine. J'ai même mis la tête là où vous pensez. Je vois encore, quand j'ai mis la tête des gens qui se trouvent là, y compris ma femme. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans la guillotine, c'est pour répondre à vous, monsieur Journel, ce qui m'a le plus frappé, c'est le caractère archaïque de cette mécanique. C'est-à-dire, le couteau taillé en biseau, qui était lourd, glissait. Sur deux poutres verticales qui étaient simplement creusées comme ça dans le bois. Et par conséquent, ça coinçait souvent, c'est-à-dire ça tombait, hop, ça coinçait, il fallait recommencer, n'est-ce pas ? Nous ne pouvons plus imaginer l'inhumanité de cette affaire-là, alors que la guillotine a été inventée par humanité. Par humanité, c'est-à-dire c'était par bienveillance à l'égard du condamné qu'on avait inventé une machine qui marchait à tous les coups. Ben non, c'était pas de l'automatisme informatique, hein. Alors il fallait que avant l'exécution on mette du suif le long des trucs pour que ça coulisse bien, n'est-ce pas, ça coulissait souvent grâce au sang. Donc, si vous voulez, de tout cela, nous sommes aveugles, bien entendu. Oui, quelle était votre question, monsieur Journel ? C'est la guillotine ?
Non, vous avez répondu.
Ah oui, c'est ça.
Mais si je peux me permettre de vous interrompre, parce que c'est facile.
Interrompre.
cette thanatomie.
Thanatomanie, oui.
Thanatomanie. Manie. Que nous avons tous, n'est-elle pas liée au fait que la mort, la finitude est la seule vérité que nous acceptons ?
Exact. Alors, la réponse là est assez fine, je crois. C'est que il y a deux choses, Monsieur Journel. Il est vrai que les philosophes, beaucoup de philosophes, nous désignent, nous, les humains, comme des êtres à la mort. Vous savez, avec des tirets être, tirets à, tirets la mort. Ouais. Mais quand ils nous désignent comme être à la mort, ils voulaient dire par là que nous avons une conscience aiguë que nous allons mourir. Ou, à la rigueur, que nous avons une conscience aiguë que celle que j'aime va mourir, que ce soit ma mère, que ce soit ma sœur, que ce soit mon amante. Et donc j'ai conscience de la mort de façon subjective ou intersubjective. Et c'est ça qui est, pour beaucoup de philosophes, à l'origine de la conscience humaine. D'accord. Mais ce n'est pas de ça que je parle. C'est de la mort donnée. C'est pas de la mort subie. Parce que nous pensons que nous sommes différents des animaux parce que nous avons conscience de la mort subie. Oui, il est possible que les animaux ne soient pas conscients de la mort. Quoique, lorsqu'on entraîne le cochon vers ce que vous savez, il gueule tant qu'il peut et il sait parfaitement où il va. Vous voyez. Bon, mais ce sont des animaux domestiques. Nous ne savons pas tellement définir ça pour les animaux sauvages. Donc nous avons conscience. Mais la question que je traite ici, c'est le meurtre. C'est pas la conscience de la mort subjective. C'est l'attirance que nous avons pour l'assassinat. Car c'est de ça qu'il s'agit dans cette affaire. Hein. Il ne s'agit pas de la conscience que nous avons. Voilà mon... Et d'ailleurs, dans cet aveuglement, je poursuis, je me suis beaucoup disputé avec les organisateurs de l'exposition, qui bien entendu sont des historiens de l'art, des gens tout à fait remarquables, qui sont... Et si vous voyiez... La disposition des tableaux, vous seriez ébloui, c'est-à-dire il y a le romantisme, le classicisme, le naturalisme, l'époque scientiste, etc. C'est-à-dire la division en période d'histoire qu'on vous a enseignée comme le format universitaire obligé. Et puis il y a des thèmes, le thème 2, vous savez, comme on vous dit en littérature, le thème de la mort chez l'un, chez Zola, le thème de l'amour chez Ronsard, le thème. Qu'est-ce qu'un thème ? C'est un élément de thèse, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, tout ça, c'est le format universitaire. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Bien, ça permet, de nouveau, un autre aveuglement. Et c'est ce que je leur ai dit. J'ai dit, ah oui, alors si vous voulez que je fasse... Et alors, ils ont été très furieux de ma préface, parce qu'ils croyaient que j'allais dire, chez Géricault, le pli et le drapé est plutôt rose et bleu, tandis que chez Delacroix, alors le drapé est plutôt comme ça, alors que chez Goya, c'est un peu plus... merde, c'est ça l'histoire de l'art. L'histoire de l'art, ça consiste à ne pas parler de l'objet. N'est-ce pas ? À ne pas parler de ce que vous faites. Et de nouveau, c'est un aveuglement comme la cagoule de Géricault, comme le bandeau sur les yeux, comme... qu'est-ce que l'histoire ? C'est de nouveau cet aveuglement-là. Ils étaient furieux. Ils étaient exactement furieux comme les directeurs de chaîne quand je leur disais qu'ils faisaient voir que de l'assassinat. Ils ne le voyaient pas. Vous voyez ? Et il y a donc là, dans ce que je déclare, une sorte d'inconscience collective. Quoi, vous voyez ? Et j'avais entendu quand j'étais petit des psychanalystes qui me faisaient beaucoup rire et ils avaient inventé la notion d'inconscient collectif. Je ne sais pas si vous vous souvenez ça, chacun porte un inconscient, je ne sais plus à vous, mais le collectif, il y a de l'inconscient collectif. Et je leur disais, mais c'est une tautologie. Et c'est une tautologie. C'est-à-dire, le collectif est inconscient de ce qu'il fait. Ah, est inconscient de ce qu'il fait. Mais et ça a été dit, cette affaire-là, non ? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quelle position faut-il adopter pour pouvoir dire ils ne savent pas ce qu'ils font ? Ils qui ? Et qui le dit ? Hein ? Ils et qui le dit ? Et ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est cet aveuglement qui est... Mmh. Je voudrais rentrer un peu dans le détail de cet aveuglement. Nous connaissons des assassins célèbres et d'autres moins célèbres. Par exemple, Caïn, très célèbre, il a tué son frère Abel, très bien. Mais pourquoi est-il célèbre ? Parce qu'il a tué son frère. Il a tué son frère. Et ça, c'est un crime capital. D'ailleurs, ces crimes capitaux, ils ont un... Pas capitaux, pardon. Ils ont un nom. On appelle parricide. Parricide ou matricide. Enfin, tuer père et mère, on le dit dans le langage courant. Il a tué père et mère. C'est très grave. Alors, il y aurait, dans la justice, et dans les tribunaux, ou dans les prononcés de sentence, une distinction à faire entre des assassins plus responsables que d'autres parce qu'ils ont tué le père, la mère, l'enfant. Il y a des mères qui tuent leurs enfants. Alors ça, c'est quand même un degré dans le crime très, très supérieur aux autres. Puis il y aurait ensuite les meurtres ordinaires, usuels, banaux. Et même on pourrait dire que si Caïn est si célèbre pour avoir tué ainsi son frère, c'est qu'il s'est adonné à quelque chose qu'on pourrait appeler le sacré. Il est c'est sacré de... Je voudrais aussi raconter un peu ma vie. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'ai enseigné dans les prisons, dans les prisons importantes de Paris, la santé, etc. Et c'est très intéressant d'enseigner dans les prisons parce qu'on a des étudiants concentrés, attentifs. Oui. Et un jour, ma technique pour enseigner dans la prison consistait à dire c'est vous qui déciderez du sujet. Alors, ce jour-là, il y avait autour de la table des musulmans, des athées, des juifs, des chrétiens. Enfin, c'était un peu mélangé du point de vue religieux. Très bien. Et les uns se moquaient des autres en disant... alors, ils voulaient qu'on parle du sacré. Qu'est-ce que c'était que le sacré ? Je leur dis, écoutez... C'est très facile de parler du sacré, mais ne vous disputez pas parce que les uns disaient que le sacré était fondamental, les autres disaient que c'était conventionnel. La preuve, c'est que le sacré, pour un, c'était un ciboire, pour l'autre, c'était la pierre noire de la Mecque, et pour l'autre, c'était un rouleau de parchemin. Et par conséquent, comme c'était parfaitement relatif, la pierre ou le rouleau, donc c'était une convention humaine, et donc c'était rien du tout. Bon. Par conséquent, c'était pas fondamental. Très bien. Bon, j'ai dit, très bien, ne vous disputez pas, écoutez, on va en décider assez vite, mais avant de commencer, on va faire, je sais pas moi, 3 à 5 minutes de silence, et pendant les 5 minutes de silence, vous allez chacun penser à la mort. Qu'est-ce que c'est vraiment pour vous que la mort ? Alors, les voilà en silence, et puis, au bout d'une minute, je dis, excusez-moi, et j'ai fait la même remarque à M. Journel, j'ai dit, écoutez, il y a deux sortes de morts, la mort... qu'on va subir, soi-même ou quelqu'un d'autre, puis la mort qu'on a donnée, n'est-ce pas ? Il y a une différence entre sa propre agonie et l'assassinat. Et à ce moment-là, deux d'entre eux se sont levés comme des... et on dit, nous on sait ce que c'est que le sacré. Oui, oui, on sait. C'était les deux meurtriers qui se sont levés. Jamais je n'ai eu une telle évidence devant moi de ce que c'était vraiment que le sacré. C'est-à-dire les deux meurtriers qui étaient condamnés à vie pour avoir tué, se sont levés, on dit, oui, oui, nous savons ce que c'est que le sacré. Nous le savons. Et il l'avait comme ça, dit devant tout le monde, c'était là quelque chose qu'on n'avait pas analysé. C'était un témoignage existentiel de ce que c'est que le sacré. Alors je reprends maintenant sur les assassins dont j'ai parlé. Si vous voulez faire une différence entre les assassins sacrés, ceux qui matricident, parricident, etc., déicident à la rigueur, même si vous voulez, et puis les assassins normaux, non seulement vous vous trompez, non seulement je porte témoignage que vous vous trompez, mais les statistiques, de nouveau, disent qu'on se trompe. Et les statistiques disent qu'on se trompe pour la raison suivante, c'est que sur 10 meurtres, il y en a 9 dans la famille. Le savez-vous ? C'est-à-dire que pour tuer quelqu'un, il faut le connaître. Et pour tuer quelqu'un, il faut le haïr. Et on ne déteste pas un étranger qui passe. On n'a aucune raison de le tuer. Tandis qu'on a toutes les raisons de tuer sa femme. Est-ce que vous savez qu'en France, il y a une femme qui meurt tous les jours des soins de son mari ou de son amant, tous les jours et demi. C'est-à-dire qu'il y a 330 femmes par an qui meurent des sévices de son mari ou de son amant. C'est-à-dire qu'on se tue entre proches. Hein. On ne se tue pas entre étrangers. Par conséquent, tous les meurtres sont sacrés. C'est-à-dire tous les meurtres sont des parricides, des matricides, des infanticides, des uxoricides. Et permettez-moi d'inventer le mot uxoricide, puisque le meurtre de la femme est extrêmement répandu dans nos sociétés occidentales. Vous le savez sans doute. La femme battue ou et encore la femme tuée par son mari ou son amant, c'est le sommet de l'iceberg. Vous vous rendez compte les sévices que ça suppose à l'intérieur de l'iceberg, en bas de l'iceberg. Quand on dit tu ne tueras point, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il faudrait associer deux préceptes, tu ne tueras point ton prochain. Quand on dit aime ton prochain, c'est beaucoup plus dangereux que vous le croyez. C'est-à-dire, c'est en général que tu tues ton prochain. Et c'est celui que tu tues, le prochain. C'est pas celui que. Si tu dois l'aimer, c'est le précepte est beaucoup plus fort que vous ne le pensez. C'est-à-dire, ça a l'air facile d'aimer son prochain, mais pas du tout. C'est justement celui qu'on tue. Et là, du coup, je suis obligé de parler du sacré. Alors je voudrais quand même recommencer sur le caractère non étranger de la victime, n'est-ce pas ? Il faudrait finalement dire que toute victime d'un viol, c'est ma sœur. De renverser les trucs. Tout victime d'un meurtre est mon frère. Toute victime d'un viol est ma sœur ou ma mère. Vous voyez de renverser l'affaire et de dire lorsqu'il s'agit de meurtre, alors la victime, c'est vraiment notre proche, notre prochain. Alors je suis dans le sacré, ça y est, je suis tombé dans le sacré. D'ailleurs ça me donne l'idée que j'ai toujours eue d'ailleurs et sur laquelle j'aimerais bien développer quelques idées. Si les statistiques me donnent raison, c'est-à-dire si on dit à la télé ou dans les journaux 1, la mort, 2, cadavre, 3, culpabilité, 4, pistolet, parce que 4 c'est le pistolet forcément, Et si chaque victime et chaque mort évoque le sacré, n'est-ce pas ? Alors, on est bien obligé de penser que le poste de télévision est un objet rituel. C'est-à-dire, c'est une religion. Et une religion, d'ailleurs, avec toujours le même prêtre, vous l'avez remarqué aux nouvelles, et toujours le même rituel, le même format. Exactement comme à la messe ou comme dans les rites protestants ou juifs, avec un rituel tout à fait ordonné, les mêmes prêtres, les mêmes nouvelles, les mêmes répétitions, etc. Et donc, c'est une religion. De quelle religion êtes-vous, messieurs ? Je suis de la religion de la télé. C'est une religion archaïque. archaïque, parce que c'est la religion la plus ancienne du monde, c'est la religion du sacrifice humain. C'est la religion pré-abrahamique. Qu'est-ce que la télé, qu'est-ce que les journaux, qu'est-ce que les nouvelles, qu'est-ce que mon exposition ? C'est une chapelle d'une religion archaïque qui date d'avant Abraham. Parce qu'Abraham est le premier, que je sache, dans l'histoire, à qui le Seigneur a dit « Ne tue pas ton fils ». Tu étais prêt à tuer ton fils comme tout le monde, parce que le sacrifice d'Abraham, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est pas Dieu qui lui dit de monter Isaac sur la montagne, c'est que tout le monde le faisait. C'est que tout le monde le fait, tout le monde tue son fils. Je crois que les psychanalystes, quand j'étais petit, m'avaient appris un dogme qui s'appelait le meurtre du père. Vous vous rappelez le meurtre du père ? Qu'est-ce que c'est amusant ? Qu'est-ce que c'est amusant ? Alors que, et là aussi, j'étais drôlement aveugle, j'ai mis du temps à voir les choses. Quand même, je fais partie de la génération qui a connu la guerre, c'est-à-dire quelques dizaines de millions de morts, et les dizaines de millions de morts avaient en général entre 18 et 20 ans. C'est-à-dire que les pères étaient en train de tuer par dizaines de millions des fils. Et on apprenait dans les amphithéâtres de l'université le meurtre du père au moment où les pères tuaient les fils par millions. Alors ça, comme mensonge, incroyable, comme aveuglement, alors comme inconscience, alors là, c'est extraordinaire, n'est-ce pas ? On apprenait le meurtre du père au moment même où Foch, Joffre, Clémenceau pour la première, et puis ensuite un tel, alignaient des dizaines de millions de cadavres dans les champs de trucs. Et on apprenait le meurtre du père, alors on tue les fils. Quel aveuglement, quel mensonge, quel est... pour une fois, là, l'inconscient collectif fonctionnait à mort. À mort, c'est le cas de le dire. Très bien. Nous sommes donc dans le sacré. Et les organisateurs, ce n'est pas moi, de l'exposition, ont décidé de commencer, la première image qu'on verrait quand on rentrerait, ça serait la croix du Christ. Alors, il faut que je commente maintenant, il faut que je commente cette image-là. Je serai un peu long parce que c'est un peu compliqué de commenter cette image-là. Compliqué. Je veux dire par là, elle a une charge historique si forte qu'il est difficile de la de l'éviter. Alors, d'abord, crucifix, F-I-X, c'est intéressant, crucifix. Quel est le sens de ce mot ? Le sens de ce mot, c'est la victime qui est fixée au bois. Crucifix. La victime est fixée par des clous. Est fixé au bois de la croix, crucifix. Mais s'il vous plaît, je ne vais pas donner à crucifix ce sens-là pour le moment. Pourquoi ? Parce que la croix elle-même est fixée est par terre. Elle est enfoncée par terre. Elle est plantée. Elle est plantée sur le sommet du calvaire. Elle est plantée là. Et je voudrais méditer sur le fait qu'elle est fixée par terre, qu'elle est fixée en terre. Et elle l'est, de fait. On voit à l'horizon la nuit tomber sur la plaine au-delà de la montagne. Quand on plante un pieu, ça signifie généralement dans les campagnes, ça signifie une borne, c'est-à-dire une frontière. On plante là c'est chez toi et là c'est chez moi. C'est la borne entre deux propriétés agricoles. Pagus. Le mot pagus veut dire à la fois païen, paysan et pieux, le pieu. Le pieu, c'est le même mot que pieux. C'est-à-dire c'est le même mot que paix, P-A-X, la paix. C'est-à-dire, si tu restes chez toi, si je reste chez moi, nous serons en paix, paix. Voilà. Mais si tu ne viens chez moi, alors nous serons plus en paix, il faudra que tu payes. Et encore le même mot, payer, c'est le même mot. Pagus veut dire à la fois tout ça. Très bien. Alors, voilà une borne. Méditons sur la borne. La borne signifie donc qu'il y a deux morceaux de l'espace. Un espace à gauche, un espace à droite, un espace avant, un espace après. Ça veut dire aussi qu'il y a un temps avant, un temps après. Alors, avant l'ère chrétienne, puisque ce signe-là est le début de l'ère chrétienne, avant l'ère chrétienne, on en avait des bornes comme ça. On en avait même plusieurs. Il y en avait une qui s'appelait un Hermès. Hermès était le dieu de la communication, comme vous savez, celui qui, chez les Romains, est devenu Mercure. Et alors, on plantait un Hermès, et c'était la borne millière, la borne, comme on dirait aujourd'hui, une borne Michelin ou une borne kilométrique. Et cet Hermès, d'ailleurs, il était en général en érection. Pourquoi ? Je l'ignore, mais je voudrais quand même signaler ce fait réjouissant. Hermès était en érection. Je crois savoir pourquoi, mais je ne le dirai pas tout à fait tout de suite. Mais chez les Latins, il s'appelait Janus. Ce Janus. Vous connaissez Janus ? Oui. Janus, c'était... Ah, cette borne-là, Janus, J-A-N-U-S, ça vaut le coup que je l'écrive au tableau. C'était une sorte de fétiche romain, Janus. Il était... les Romains l'appelaient Bifronce. Ça veut dire qu'il avait deux fronts. Il avait deux fronts, deux visages. Et cette borne avait un visage d'un côté, un visage de l'autre. Un visage côté, je ne sais pas, chez Audrey, un visage côté chez Maria. Voilà. Un visage avant et un visage après. C'est-à-dire qu'il découpait deux zones ou d'espace ou de temps. Mais comme il avait deux parties symétriques, il était entendu que la valeur, attention, faites-moi attention, que la valeur temporelle ou spatiale d'un côté était équivalente à la valeur de l'autre. C'est-à-dire que tu sois à gauche ou que tu sois à droite, c'était équivalent. Janus te regardait de la même manière. Que ce soit avant, que ce soit après, c'était pareil. Janus te regardait de la même manière. Il y avait réversibilité de l'espace et du temps. Et s'il y a réversibilité de l'espace et du temps, que l'espace soit réversible, nous sommes d'accord, que le temps soit réversible, c'est pas tout à fait dans nos têtes aujourd'hui. Mais pour eux, le temps était réversible. Vous savez sans doute d'où est venu, quel est le mot en français qui est dérivé immédiatement de Janus. Ben, c'est janvier. Janvier, c'est le mois de Janus. C'est-à-dire il a la tête vers 2008 et la tête vers 2009. C'est pour ça qu'il s'appelle janvier. J'ai l'impression que vous ne connaissez pas les mois. Je vais réciter les mois. Ah oui, c'est amusant de réciter les mois. Il y a quatre mois. Il y a quatre mois dans l'année, n'est-ce pas ? Il y a d'abord les mois fétiches. Les mois fétiches, janvier, février. Les mois divins, mars, avril, mai, juin. Les mois historiques, juillet, août. Et les mois numériques, septembre, octobre, novembre, décembre. Les mois fétiches, c'est janvier, février. Parce que Janus, c'est un fétiche, c'est pas un dieu. Février, c'est un fétiche, c'est pas un dieu. Février, oh, c'est très compliqué, février. C'était les chevaliers romains qui, à certaines nuits, pouvaient se promener à cheval nu dans Rome et qui jetaient et qui battaient les femmes qu'ils rencontraient à l'aide d'un morceau de tissu qu'on appelait fébruarus. Et ça les rendait fertiles. Oh, c'est très compliqué. Donc c'est des mois très sombres, janvier-février, des mois très très préhistoriques, des mois très qu'on comprend mal. Qu'est-ce que c'est que ce Janus ? Qu'est-ce que c'est que ce Februarus ? On a beaucoup discuté sur Februarus. Ça s'appelait les Lupercales. C'est les fêtes des Luperques pour faire voir que les Romains étaient des loups. Vous voyez, c'était des hommes-loups. Luperque, Lupus, le loup, en souvenir que Romulus et Rémus avaient été élevés par la louve. Vous voyez, c'était des origines extrêmement noires. Puis arrive la saison des dieux. Alors les dieux sont tout à fait repérables. Mars, le dieu de la guerre. Aphrodite pour avril, la déesse de la beauté. Maya et Junon. Junon, la femme de Zeus. Alors là, c'est des dieux d'une religion très très définie. Puis ensuite, on tombe sur l'histoire. Juillet, c'est Jules César, évidemment, Jules. Auguste, c'est l'empereur Auguste, et ensuite septembre, c'est comme novembre, décembre. Ce qui est amusant, c'est qu'on a 10 mois alors qu'on en a 12. En fait, décembre, tout ça, c'est des contresens inouïs, parce que décembre, c'est le 10e mois. Il est appelé le 10e mois alors qu'il y en a 12. Pourquoi? Parce que les dieux archaïques autrefois n'étaient pas nommés, janvier, février, et que l'année commençait en mars, 1er mars. Quelquefois 1er avril, ça dépendait. Le poisson d'avril vient de là, d'ailleurs, c'était la vieille fête du 1er de l'an. Mais on disait 1er mars parce que les armées romaines se mettaient en campagne à ce moment-là. Je vous raconte ça tout simplement parce que la plupart des philosophes disent que l'histoire se développe de telle sorte que d'abord les religions sont extrêmement noires, ténébreuses, archaïques, et qu'ensuite il y a l'arrivée des religions plus déterminées, et puis qu'ensuite on est plus sérieux, on fait de l'histoire, et puis après on fait de la science avec des nombres. Vous voyez que la suite même des mois enveloppe des théories de l'histoire qui sont simplement la recopie de notre manière de compter le temps. Et c'est pas la peine d'être un grand philosophe pour raconter l'histoire des progrès humains. Elle s'est inscrite de janvier à décembre. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Or donc, Janus était à deux têtes. Et donc il déterminait chez les Romains, chez les anciens qui précédaient l'ère chrétienne, ça induisait l'idée que l'espace et le temps étaient réversibles, je l'ai dit. Seulement là, la nouvelle fiche dit le contraire. C'est-à-dire derrière il y a du bois, devant il y a un corps vivant. Donc c'est la première fiche irréversible. Et ça, ça commence à être intéressant. Oui. C'est le premier moment, si vous voulez, ce pourquoi on a compté à partir de ce jour-là, ou à partir de la naissance de cet homme-dieu-là, c'est que on considérait qu'il y avait de l'irréversible dans le temps. C'est-à-dire, avant, il n'y a pas d'histoire, après, il y a une histoire. Avant, il y a du réversible, le temps et l'espace sont réversibles, après c'est... Il n'est pas bifrance, il est unifrance. Il est simplement. Et d'ailleurs, si vous allez visiter le Vatican, le musée du Vatican, il y a une série de tableaux qui s'appelle les stanze. Je ne sais pas si vous les connaissez, les stanze du Vatican. Il y en a de très belles de Raphaël, d'ailleurs. Il y a une stanze, il y a les stanze de chaque côté, puis il y a un plafond au-dessus des stanze qui est assez élevé et assez profond au point de vue de la perspective, et où on voit la croix, la même, sur un socle, et au pied de la croix, Hermès est tombé du socle et est en morceaux. On voit très bien que le crucifix, au sens de la borne, a remplacé l'Hermès d'autrefois. C'est bien ma thèse. Voyez, c'est-à-dire, le crucifix n'est pas seulement un homme ou un dieu fixé à la croix, c'est une borne elle-même fixée à la terre et qui définit quoi ? Eh bien, qu'avant c'était quelque chose, après c'est autre chose. Et quelle chose avant et quelle chose après ? Voilà. Quelle chose après ? Une instauration. Vous connaissez le mot instauration. Mais qui connaît l'origine du mot instauration ? Ça, c'est intéressant. Ou restauration. Ou qu'est-ce que je dis ? Restaurant. Les restaurants. Le mot grec stavros, stavros veut dire la croix. Pas forcément la croix du Christ, mais la croix telle qu'on le trouve quand on dit la croix blanche, quand on dit le carrefour. Vous voyez, instauration, ça veut dire... il y a un point d'arrêt et on commence autrement. Voilà. Il y a une nouveauté qui arrive. Voilà. D'ailleurs, restaurant, ça veut dire ça. Je crevais de faim, je me restaure, je vais redémarrer. Le mot restaurant veut dire ça. Curieusement, le mot instauration veut dire à la lettre crucifixion. Exactement. Stavros, en grec. Maintenant, il faut bien définir ce dont il est question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière. Réponse du noir, c'est-à-dire la nuit, les ténèbres, et devant un corps humain. humain, divin. Hein, bon, ça dépend quel sera votre... ce corps-là, le corps du Christ, en train de mourir, est en train de mourir pourquoi ? Alors, consultons maintenant les Écritures telles que on les connaît pour ce supplice-là. Il est mort pour racheter tous les péchés du monde. C'est ce que disent les Écritures. C'est intéressant de regarder ce que veut dire « pour racheter tous les péchés du monde ». J'aimerais que vous souligniez le mot « tous ». Tous les péchés du monde. Alors, s'il est mort pour racheter tous les péchés du monde, la totalité de la culpabilité humaine, totalité, ça veut dire pour toute... pour tout quoi ? Pour toute l'histoire passée. Toute l'histoire passée. Ah, mais même toute l'histoire future. Toute, ça veut dire ça. Alors, s'il est mort pour racheter tous les péchés... Alors c'est le dernier mort. C'est le dernier condamné à mort de l'histoire. C'est le dernier condamné à mort. À partir de là, il n'y a plus de condamné à mort. Puisqu'il a racheté tous les péchés. Tous les péchés présents, passés et à venir sont rachetés. Par conséquent, il n'y a plus de punition concevable. Et par conséquent, qu'est-ce qu'il annonce là ? L'abolition de la peine de mort. Ça, c'est extraordinaire, n'est-ce pas ? L'abolition de la peine de mort. C'est-à-dire, si vraiment il est à l'intégralité de la punition, s'il est puni pour l'intégralité des crimes humains, alors les crimes humains sont tous rachetés, il n'y en a plus, c'est le dernier qu'on a dit à mort. Est-ce que ça marche comme ça ? C'est toute la question. C'est toute la question. Pour savoir si vraiment il fait nouveauté. Est-ce que ça marche comme ça ? Alors, je vais dire d'abord oui, et ensuite je vais dire non. Oui, ça marche comme ça. Oui, ça marche comme ça pour une simple raison. C'est que c'est qu'il va ressusciter. C'est que selon les Écritures, cet homme-là qui meurt va ressusciter. Et s'il va ressusciter, alors il va vaincre la mort. Non seulement il est le dernier condamné à mort, mais en plus, la mort est vaincue. Par conséquent, il y a une nouveauté irréfragable. Il n'y a pas de doute sur ce point. Et d'ailleurs, les textes le disent parfaitement. Ils disent parfaitement que son tombeau était vide. Les textes de la résurrection, que son tombeau était vide. Ils disent que les linges étaient pliés, que les aromates n'ont servi à rien, qu'on l'a pas du tout momifié, n'est-ce pas ? Puisque les aromates, on les a portés, ça ne servait à rien. Par conséquent, s'il est ressuscité, il a vaincu la mort, et ça c'est tout à fait nouveau. Et d'ailleurs, non seulement il a vaincu la mort, mais il n'a vaincu que la mort. Oui, c'est pas rien de dire ça. C'est énorme de dire ça, mais ça veut dire aussi que il n'y a pas dans les textes aucune vengeance dite sur les soldats qui l'ont humilié, les gens qui l'ont flagellé, ni les juges qui l'ont. Non, on n'en parle plus. Il y a prescription. Alors, première prescription, dernier condamné à mort de l'histoire, et vaincre la mort. Par conséquent, en effet, la croix est là et c'est tout à fait nouveau. La réponse est oui, il n'y a pas de doute. Mais la réponse est non. Mais, que je sache, ça n'a rien changé. Nous avons continué à faire des guerres, nous avons continué à condamner les gens à mort, nous avons continué à piétiner nos frères et nos sœurs, les maris ont continué à tuer les femmes, les généraux et les présidents ont continué à envoyer leurs fils au casse-pipe, donc la mort est toujours là. Par conséquent, c'est raté. Ce qu'il dit est raté. C'est pas une fiche qui détermine une irréversibilité sur l'histoire. Alors les juifs ont raison. Le Messie n'est pas venu. Alors les athées ont raison. Le texte est mensonger. La preuve d'ailleurs, c'est que si vous mettez, je dis aux organisations de l'exposition, cette image-là au début, alors après cette image-là, on ferme l'exposition. C'est la seule image possible. C'est-à-dire, si vous y croyez, c'est la seule image. C'est fini. À partir de là, c'est fini. Il n'y a plus de condamné à mort. Or, vous faites le contraire. au lieu de fermer l'exposition, ça l'ouvre. Et à partir de là, un déluge abominable de femmes violées, de supplices, de décapités, etc. Donc ça a raté complètement. Est-ce que ça a raté ? Oui et non. Oui, parce que bien sûr ça a raté, bien sûr c'est un mensonge, bien sûr c'est... Oui, mais à partir de là, qu'est-ce qu'il a dit avant de mourir ? Il a dit « ils ne savent pas ce qu'ils font ». Mais dès le moment où il a dit « ils ne savent pas ce qu'ils font », nous savons ce que nous faisons. C'est-à-dire, d'un coup, on a su ce qu'on faisait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on condamne à mort, on fait des guerres, etc. Et on fait... et on peut, grâce à « ils ne savent pas ce qu'ils font », on peut enlever la cagoule des gens, enlever le bandeau, on peut enlever les bandeaux devant votre œil et vous verrez que vous mangez du cadavre à tous les repas. Là, vous le verrez, puisque maintenant, vous savez ce que vous faites, etc. Et par conséquent, étant donné que vous savez ce que vous faites et que vous pouvez ne pas le faire, eh bien, le message est arrivé. Et donc, les chrétiens ont raison. Alors, d'un côté, les juifs ont raison, les athées ont raison, les chrétiens ont raison, choisissez. C'est maintenant qu'il faut choisir. C'est-à-dire, c'est à vous, messieurs, à choisir ce que vous comptez penser de la vie et de la mort.